Un plan de la prédication, que vous puissiez revenir sur ça. Et un frère me partageait que régulièrement, presque à toutes les semaines, ils ont une discussion en famille après. Ils jasent avec les enfants pour voir, parce que leurs enfants arrivent à un âge où ils sont dans la salle avec nous. Et donc, ils ont une conversation après pour dire « qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Comment tu vois ça? » Et puis, ils discutent ensemble comment Dieu leur a parlé. Et donc, c'est ça qu'on veut faire. On vous donne des outils pour pouvoir aller davantage dans la parole de Dieu et que le message du dimanche matin ait une plus grande portée. On va se courber ensemble dans un mot de prière avant de se pencher sur les Saintes Écritures. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour ce temps que nous avons ensemble ce matin pour souligner ton œuvre merveilleuse à la croix. Seigneur, j'ai été élevé depuis mon enfance à entendre cette histoire. Et je la trouvais belle, Seigneur. Je trouvais merveilleuses tes paroles, tes enseignements. Mais Seigneur Jésus, tu sais que dans mon histoire personnelle, la croix, ce que tu as accompli en mourant sur cette croix et ta résurrection n'ont pris tout leur sens dans ma vie qu'à l'âge de 19 ans, Seigneur. Parce que ce moment-là, ton sacrifice est devenu vie pour moi. Je te prie de nous conduire ce matin, de conduire nos cœurs. Viens faire une œuvre dans nos cœurs par ton esprit. Et toute personne ici qui ne te reconnaît pas comme Seigneur et Sauveur, viens l'interpeller ce matin, Seigneur. À travers ce cri que tu as lancé lorsque tu étais sur cette croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Viens, Seigneur, ouvrir les yeux du cœur afin que la portée, le sens, la puissance de cet acte posé par ton sacrifice à la croix prenne maintenant tout son sens. Et que des vies soient rachetées, que des vies soient bouleversées, que des gens passent de la mort spirituelle à la vie spirituelle en toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux déclarer devant cette assemblée ce matin, et avec les frères et sœurs, et avec des millions de chrétiens partout sur la terre, ce matin, je veux déclarer que ce que tu as accompli, Seigneur, en mourant sur cette croix, est absolument unique et incomparable. À tout ce qui a été fait et qui sera fait dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de cet univers. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu m'as fait l'immense privilège de saisir ces choses. Moi qui suis un pécheur, souvent rebelle encore, Seigneur, mais de plus en plus reconnaissant et transformé à ton image. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors ce matin, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu particulier pour un dimanche de Pâques. Souvent à Pâques, on veut aller se pencher sur la résurrection, d'accord? On célèbre, on souligne la crucifixion le vendredi soir et le dimanche matin, nous soulignons la résurrection. Ce matin, exceptionnellement, j'ai décidé cette année d'aller vers un passage qui est vraiment au moment de la crucifixion. Et la raison pour ça, c'est que je voyais dans ce passage-là l'opportunité de plonger au cœur de l'Évangile. Aller un peu plus loin, ne pas rester en surface et vraiment entrer dans la richesse, la beauté, mais aussi ce qui a été accompli avec ce sacrifice à la croix. L'Évangile, ça veut simplement dire « bonne nouvelle ». Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce mot-là, qui entendent ce mot-là un peu à toutes les sauces, et ça peut même être galvaudé, puis on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est tout simplement une translittération du grec « evangelion » qui veut dire « bonne nouvelle ». Alors pour nous, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Quel est ce message qui est annoncé? Quelle est cette bonne nouvelle qui est annoncée? Et c'est à travers un passage extrêmement sombre qu'on va aller voir ensemble quelle est la bonne nouvelle. D'accord? Par un moment qui est vraiment difficile dans la vie de Jésus de Nazareth, celui qu'on appelait le Christ. Sur le sommet de sa croix, c'est ce qui était écrit, le Christ. C'était le roi des Juifs. C'était le Messie, c'était le Sauveur. Mais c'était écrit là par moquerie. Lorsque Jésus est sur la croix, il a prononcé différentes paroles. Vous avez souvent entendu parler peut-être des sept paroles du Christ, les sept dernières paroles du Christ. Ce sont ces paroles qui, dans les quatre évangiles, nous sont rapportées. Et donc, dans différents évangiles, on a une parole, une autre. Et puis, on reconstitue un peu les événements dans leur ensemble, puisque chacun des évangélistes a voulu mettre l'accent sur différents aspects. Et donc, on reconstitue un peu tout ça comme différents témoins d'un accident, d'un événement dans votre vie, autour de vous. Vous lisez les journaux et puis on reconstitue un peu tout ce qui s'est passé historiquement à travers les différents témoins, bien, c'est ce qu'on a avec ces quatre évangiles. Et dans l'évangile de Matthieu, ce qui nous est rapporté comme parole sur la croix de la part de Jésus, c'est probablement la parole la plus désespérée que Christ a jamais prononcée, d'accord? On lit dans Matthieu 27 au verset 46. Si vous avez vos Bibles, tournez dans Matthieu 27, le verset 46. Je vais m'en tenir à ça pour ce qui est de l'évangile de Matthieu ce matin. Mais on va aller voir ensemble le psaume 22 par la suite qu'Alexandre nous a lu tout à l'heure. Matthieu 27, 46, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et vous savez quoi? C'est un passage qui est mystérieux. C'est un passage qui est mystérieux même pour les chrétiens. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu des discussions avec des chrétiens sur le sens et la portée de ce qui est dit ici. Alors, c'est un passage qui est mystérieux pour quiconque a lu les évangiles. Si vous avez lu un des quatre évangiles, à moins que vous soyez profondément cynique, probablement comme la majorité des gens qui ont lu les évangiles, chrétiens, non chrétiens, vous avez été frappés par la sagesse de cet homme-là. Vous avez été frappé par ses paroles, par ses gestes, par l'accueil. Je lisais hier dans la presse Stéphane Laporte et il écrivait une chronique, tout ça, et puis il parlait du fait que Pâques a perdu absolument tout son sens maintenant. Tout à l'heure, l'image qui me venait à l'esprit lorsqu'on était en train de chanter, puis je pensais aux enfants, c'était l'image d'un enfant qui serait en train de manger une croix en chocolat, tu sais. Puis c'est à peu près ce qui reste de Pâques, je pense, pour la majorité des gens. Mais Stéphane Laporte lui-même disait, pourtant cet homme-là avait un message profondément subversif, avait un message puissant, le message le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Waouh, ma curiosité a vraiment été piquée, je voulais savoir où il s'en allait. Et malheureusement, il y avait juste la moitié du message. Mais il avait, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. La partie la plus importante, celle qui manque, comme je vous ai aussi aimé. Parce que c'est à la croix et dans l'amour de Jésus-Christ que nous apprenons à nous aimer les uns les autres. Mais voyez-vous, toute personne qui a lu un jour dans sa vie un des quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean ou les quatre, la majorité des gens gagnent, Jésus gagne en respect, malgré le fait que tant de gens ne croient pas dans les miracles, ne croient pas dans les portions où il y a des affirmations concernant des actes surnaturels posés par Jésus. C'était un homme d'une sagesse vraiment remarquable, d'un amour extraordinaire. Et d'arriver à ce moment-là dans son histoire personnelle où il est pendu au bois et cet homme-là va s'écrier. Un homme qui était droit, un homme qui était juste, un homme qui était spirituel va s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça vous laisse perplexe. Comment cet homme-là pouvait-il avoir cette profonde conviction après toute la droiture, après tout ce qu'il a apporté, tous les enseignements qu'il a apportés? Comment pouvait-il avoir la conviction profonde? C'est un cri de désespoir. Il parle avec ses tripes, avec tout ce qu'il ressent de plus vrai en lui. Il s'écrie et dit « Dieu m'a abandonné ». Pourtant, il crie encore à Dieu. Qu'est-ce qui a pu conduire un homme aussi juste et aussi droit, un homme aussi spirituel, avoir cette conviction profonde sur cette croix qu'il avait été abandonné par Dieu? Et comme je le disais, la majorité des chrétiens se posent des questions. Je ne sais pas combien de fois j'ai eu des discussions avec des chrétiens. Est-ce que Jésus a vraiment été abandonné sur la croix parce qu'il va ressusciter d'entre les morts? En définitive, c'est clair qu'il n'est pas... Il n'est pas abandonné à long terme, ça c'est certain, mais est-ce que vraiment il est abandonné? Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec un homme qui étudiait la Bible au début de ma vie chrétienne, puis vraiment il s'appliquait à me convaincre que non, il n'a pas été abandonné. Jésus était juste en train d'exprimer ce qu'il ressentait. Parce que ça ne se peut pas que Dieu abandonne son fils. Et ça ne faisait pas de sens pour moi, parce que la question qui venait dans mon esprit, c'est, est-ce que Jésus était dans l'erreur? Quand Jésus s'était créé cet homme sage qui semblait tellement connaître Dieu, est-ce qu'il était profondément dans l'erreur à ce moment-là? Ou est-ce que sa déclaration est aussi vraie que toutes les autres qu'il a faites concernant Dieu? Et régulièrement, j'ai des discussions avec des chrétiens qui sont perplexes et qui disent, « Oui, mais peut-être que c'est son humanité qui est exprimée ici. Hein? » Les chrétiens sont convaincus, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. C'est Dieu incarné. Et donc, peut-être que c'est juste son humanité et c'est ce qu'il ressentait dans ses tripes, comme dans des moments de douleur où un chrétien va savoir avec sa tête que Dieu ne l'a pas abandonné, mais dans son cœur, il dit non, moi j'ai été abandonné par Dieu. Quand un chrétien en vient à maudire le jour de sa naissance parce qu'il y a tellement de souffrance, ou pensons à Job dans l'Ancien Testament, Job avait la ferme conviction qu'il avait été abandonné par Dieu. Même si avec sa tête, ça concordait pas avec sa compréhension de Dieu. Est-ce que Jésus est dans l'erreur ici? Ou est-ce que Jésus dit vrai lorsqu'il déclare, parce qu'il déclare, que Dieu l'a abandonné? Avant de répondre à la question, je veux qu'on aille voir le passage du psaume 22. Parce que le psaume 22 nous permet d'entrer un peu plus dans l'expérience que Jésus a vécue. Le psaume 22 vient nous éclairer. Si vous n'êtes pas familier avec les Saintes Écritures, vous devez savoir qu'il y a des prophéties dans la Bible. Vous avez déjà entendu parler de ça, mais les prophéties, un aspect des prophéties, d'accord, je ne dis pas tout sur les prophéties en disant cela, mais un aspect des prophéties, c'est qu'on trouve des textes anciens qui annoncent quelque chose qui allait venir plus tard. Et le psaume 22 est un des textes les plus intrigants pour ceux qui étudient la Bible. Juifs pour l'Ancien Testament, chrétiens, qui que ce soit, quiconque étudie la Bible, le psaume 22 est un texte intriguant parce qu'il a été écrit des centaines d'années avant la venue, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Avant la venue de ce personnage historique, Jésus de Nazareth, le psaume 22 a été écrit et il est attribué à David, le roi David, qui est en train d'écrire un cantique. Les psaumes étaient généralement des cantiques, des poésies, où il exprime ce qu'il a vécu. Mais quand on lit ce psaume-là, et tout à l'heure Alexandre nous a lu presque tout le psaume, on voit bien que cette expérience dépasse de loin tout ce que David a pu vivre dans sa vie. Il y a des choses qui sont mentionnées là-dedans où tu dis, mais on étudie la vie du roi David, on a quand même beaucoup d'informations sur sa vie. Et les hauts faits de sa vie, nous les connaissons. Mais il n'y a rien qui concorde à une telle expérience. David n'a jamais vécu un abandon aussi grand que ça. Et les théologiens ont appris à reconnaître, et tout chrétien qui lit les Écritures apprend à reconnaître progressivement ce que sont les prophéties, des textes qui précèdent un événement, qui annoncent souvent un événement à venir, et la distance dans le temps est tellement grande, et la prophétie est parfois tellement précise que ça devient vraiment énigmatique. C'est difficile de le comprendre. Je ne parle pas de prophétie à la Nostradamus, d'accord, qui pourrait vous permettre de trouver le code de la 649 cette semaine dans des textes obscurs. Lire le psaume 22, c'est être pris avec un problème parce qu'il a été écrit beaucoup trop tôt. Et c'est simple de savoir qu'il a été écrit tôt. On a des manuscrits de l'Ancien Testament qui sont plus anciens que ça, d'accord? Alors, ce n'est pas une difficulté, c'est un fait historique. Ce texte-là est plus ancien que la venue de Christ et il pose un problème à notre intelligence. On essaie de comprendre ce qui se passe là. Une dernière chose que je veux mentionner avant d'aller vers le psaume 22, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais très brièvement. Sur la croix, tout le message de Jésus ne s'arrête pas à ce cri de désespoir, d'accord? Et si vous voulez bien comprendre ce que Jésus exprime sur la croix, vous devez aller lire le récit, la fin des quatre évangiles. Pour entendre Jésus dire « Tout est accompli », pour entendre Jésus dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Parce que Christ n'a pas terminé son passage sur la croix dans un moment de désespoir. Il y a deux mots qui sont troublants dans la déclaration de Jésus. Abandonné et pourquoi. Et ces deux mots-là vont toujours de pair pour toute personne qui a vécu un abandon. Toute personne ici dans cette salle, et il y en a plusieurs qui ont vécu des abandons, la question qui vient toujours avec un abandon, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis abandonné? Et on peut penser à plein d'expériences humaines où on passe à travers des abandons, des conjoints qui sont abandonnés, des enfants qui sont abandonnés, des amitiés qui sont abandonnées. Mais quand cette douleur-là de vivre un abandon est expérimentée, c'est toujours accompagné de cette question, pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Et c'est troublant de voir dans ce passage, dans Matthieu 27, Matthieu qui cite, où Jésus est en train de citer le psaume 22, un homme aussi droit, aussi spirituel, aussi respectable, aussi sage, qui déclare être abandonné et qui n'a comme seule question, pourquoi? Est-ce que Jésus était dans l'erreur ou est-ce que Jésus disait vrai? Le psaume 22, c'est un psaume messianique, d'accord? Ça, c'est notre jargon. C'est un psaume prophétique, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais sa portée ou le sujet duquel il est en train de traiter, c'est la venue du Messie. Et donc, on va parler d'un psaume messianique. Il a fallu attendre la venue de Jésus-Christ pour pouvoir interpréter ce psaume-là. Vous avez un texte qui est écrit des siècles avant la naissance de Jésus. Et pour comprendre, pour interpréter vraiment ce que ce texte-là est en train de dire, il a fallu attendre la venue de Jésus-Christ, sa mort sur la croix et sa résurrection, pour pouvoir l'interpréter. Et je vous invite cette semaine à prendre le temps d'aller le lire. Si vous n'avez pas de Bible, venez nous voir, on va vous donner un Nouveau Testament avec les psaumes, vous allez pouvoir aller le lire et méditer ce passage-là. C'est un passage qui nous parle de souffrance, et on va juste le survoler très, très rapidement. L'abandon qui est décrit ici est multiple. Elle a différentes facettes. Et je vais simplement souligner ce matin celles qui clairement peuvent être attachées à ce que Christ a vécu sur la croix. D'accord? Mais l'abandon que Christ vit sur la croix, parce que c'est ce que je crois clairement, qu'il a vécu un abandon, cet abandon-là était complet, il était entier, il était multiple. Alors le psaume commence avec les versets 1 à 6 où le psalmiste exprime le fait qu'il se sent abandonné par Dieu. Il se sent délaissé par Dieu. Et le passage est ironique, d'accord? Parce qu'on l'attribue à David. On pense que c'est David qui l'a écrit. Écoutez bien les premiers versets, à partir du verset 2. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? » « Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. » Puis là, écoutez bien l'argument qu'il va faire. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. » David est en train de dire, « Dieu, je connais l'histoire d'Israël. Et je sais que c'est un peuple, en québécois, on appelle ça assez ordinaire, merci. Un peuple qui avait été choisi par Dieu et qui pourtant passait son temps à être infidèle envers son Dieu, à ne pas honorer son alliance. Et Dieu lui respectait l'alliance en les livrant à eux-mêmes. « Tu t'éloignes de moi, je te livre aux conséquences de tes décisions. Je vais te châtier même. Et donc, tu vas subir les conséquences de ce que tu es en train de faire en t'éloignant de moi. » Et à ce moment-là, le peuple criait à Dieu dans leur souffrance, dans leur désespoir, et Dieu les délivrait. Et David est en train de dire ici, « Oui, mais ton peuple... mes ancêtres qui ont traité cette alliance avec toi, c'était des infidèles, tu le sais. Ils se sont éloignés combien de fois? Eux criaient à toi et tu venais à leur secours, et moi? » Et voyez-vous, dans ce cri-là, dans cet argument-là, on entend Jésus-Christ qui est en train de dire « et moi? » Parce que Jésus-Christ est beaucoup plus que David. Jésus-Christ n'a pas fait tuer un homme pour lui prendre sa femme, comme David l'a fait avec Uri. Jésus-Christ était droit, il était saint. Et dans son cri de désespoir, il y a ce cri à Dieu qui dit, « Oui, mais Seigneur, tu délivrais l'injuste qui criait à toi. Moi, je suis ton fils. Tu m'as dit que tu avais placé en moi toute ton affection. Et moi, tu ne me délivres pas. Et moi, tu ne me délivres pas de ces maudits qui m'entourent, qui veulent me détruire, qui veulent me faire du mal. Tu m'as abandonné. » Et dans ce passage, on voit cette idée que le Messie, dans ce passage prophétique, est abandonné par Dieu, lui le juste, lui qui était sans péché. Il a été abandonné par son propre peuple, verset 7. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. David l'a vécu, c'est vrai. À différents moments, David était rejeté par son propre peuple et il a dû aller se cacher, il a dû se mettre à l'abri parce que Saül, le roi qui est en place, est en train de le poursuivre. Mais pensez un instant à ce que Christ vit ici. Il a béni ce peuple. Pendant 3 ans, Jésus a un ministère extraordinaire. Il était l'espoir des foules qui venaient l'écouter. Et c'est son peuple qui l'a trahi en le livrant aux Romains. C'est son peuple qui est là, qui est en train de lui cracher au visage alors qu'il est sur cette croix. Il a été abandonné par son propre peuple, ceux qu'il aimait, qu'il chérissait. Au verset 8, on a ici carrément une citation qui est reprise dans le récit de Matthieu. Vous pourrez prendre le temps d'aller lire Matthieu 27. Mais au verset 8, voici ce qu'on a. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Des gens dans la foule qui entouraient Jésus au moment de sa crucifixion criaient ce même message. Si c'est vrai qu'il est juste, si c'est vrai qu'il vient de Dieu, Dieu va le délivrer. Regardons ensemble, voyons ce que Dieu va faire avec lui. Parce que voyez-vous, être pendu au bois, c'était une marque indiscutable de malédiction de la part de Dieu. Et Jésus prétendait être le juste. Ce qui était écrit au-dessus de lui sur l'écriteau, c'est ce qu'il déclarait être lui-même, le roi des Juifs. Et donc la foule qui était là est en train de se moquer. Il disait, on va voir si c'est le roi des Juifs. On va voir si c'est le fils de Dieu. Dieu va le délivrer. Il a subi l'abandon à travers la moquerie, à travers le rejet. Il a été rejeté par ses proches. Et sur le plan humain, je pense que c'est ça qui a probablement fait le plus mal à Jésus. Ceux qui avaient reconnu en lui le Christ se sont poussés, l'ont abandonné. Regardez le verset 12. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Jésus était en droit humainement d'attendre le secours de ses proches. De ces braves Pierre, les apôtres qui disaient « Nous, on va être fidèles jusqu'à la fin » et qui pourtant l'ont renié dans ces moments-là. Bien sûr, il y avait quelques dames qui se tenaient à l'écart et quelques disciples qui étaient là, qui observaient la scène, qui avaient le cœur brisé. Mais tous ses disciples l'ont abandonné. Il a été abandonné par ses proches. Même ses amis les plus près de lui l'ont rejeté. Il était entouré de gens qui non seulement ne s'intéressait pas à lui, mais qui s'acharnait avec méchanceté contre lui. Et lorsqu'on lit le récit de la crucifixion, c'est une scène qui est pathétique. C'est une scène où on voit des hommes qui s'en prennent à quelqu'un à qui ils n'ont rien à reprocher. Pilate n'a rien trouvé de répréhensible. C'est pour ça que je vous dis que la scène est tellement troublante. Quand vous lisez les évangiles, il n'y a personne. Écoutez, j'ai rencontré un monsieur une fois qui m'a dit « ça c'est un charlatan Jésus » puis commencer à me conter toutes sortes d'histoires. Mais les gens voient bien que tu lui reconnaisses tout ce qui est écrit là ou non, c'est un homme exceptionnel. Ce n'est pas une fin pour un homme semblable de se retrouver pendu au bois, rejeté par ton propre peuple, méprisé. Et vous voyez, ce n'est pas l'indifférence. Ce n'est pas que Jésus est arrivé avec un message, puis son message n'a pas eu de portée, puis c'est tombé dans l'oubli. Non, non, ce n'est pas ça. On le ramasse et on le lynche. On s'en prend à lui. Et c'est ça qui est décrit dans ce psaume. Lorsqu'il prend l'image de bêtes, verset 13, « De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. » Et ces gens-là étaient là et ils haïssaient profondément. C'est la colère d'une foule ahurie qui veut le détruire et qui ont suivi leur chef religieux. Et il y a une haine profonde. Mais fondée sur quoi cette haine-là? Parce qu'il a guéri trop de malades? Parce qu'il a dit à une femme qui était dans le péché, « Je te pardonne tes péchés? » Était fondée sur quoi cette haine-là? Parce qu'il a accueilli les petits-enfants? Parce qu'il nous a enseigné à aimer les gens, à pardonner? Elle était fondée sur quoi cette haine-là? Bien moi, je vous dis que c'est ce qu'il y a dans tous les cœurs humains qui est en train de sortir là. Devant la droiture et la justice de cet homme-là, il y a quelque chose en nous qui vient et qui se révolte. Parce que lui, c'était un juste. Et à quelque part, ces gens-là nous écœurent. Parce qu'ils sont un miroir devant nos yeux, devant nos cœurs, et ça provoque en nous une réaction. C'est juste là, ces gens droits-là. Et il y avait une haine incroyable qui était exprimée à ce moment-là sur la croix, autour de la croix. Enfin, les versets 15 à 18, qui sont probablement les versets les plus troublants sur le plan prophétique. On a ici cet abandon physique qu'il a vécu, où on s'en est pris à son corps et il a souffert terriblement. Ce qu'il décrit ici, c'est quelque chose qui dépasse l'angoisse, qui dépasse la terreur, parce qu'il s'en va dans des descriptions physiques. Et le genre de souffrance qui est le plus clairement associable à ça, c'est la crucifixion, qui n'était pas vraiment pratiquée à cette époque-là où David l'a écrite. Verset 15, « Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Vous voulez faire quelque chose cette semaine? Allez sur Wikipédia, sur Google, cherchez « crucifixion ». Puis faites une petite recherche sur comment ça se passait. Qu'est-ce qui se passait physiquement lorsqu'un être était crucifié? C'est un processus d'asphyxie terriblement douloureux qui était pratiqué. C'est ça qu'on faisait à ce moment-là. Je n'irai pas là-dedans ce matin, d'accord? Faites une petite recherche cette semaine et revenez lire ces versets-là. « Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. » Ils ont percé mes mains et mes pieds. David n'a jamais eu les mains et les pieds percés. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Allez lire les évangiles, ça vaut la peine. Un passage absolument extraordinaire, troublant. Je vous dis, la puissance prophétique de ce texte-là est absolument extraordinaire. Jésus-Christ a été abandonné au moment où il était sur la croix. Il a été abandonné par ses proches, il a été rejeté par tous les hommes qui le connaissaient. Chacun l'a maudit, soit en fuyant, soit en face. Et Jésus-Christ a été abandonné à ce moment-là sur la croix par son Père, par Dieu. Pour un temps, pour un moment, il a été abandonné par Dieu. Revenez avec moi dans Matthieu 27. À quelques reprises pendant le ministère de Jésus, Dieu s'est manifesté de manière surnaturelle. Dieu est intervenu pour donner son approbation, pour approuver Jésus. De manière surnaturelle, il a fait entendre sa voix. Au moment où Jésus s'est écrié, pourtant sur cette croix, il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelle a été la réponse du ciel? Le silence total. À ce cri-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est abandonné, il y a une question qui vient tout le temps. Et ceux d'entre vous qui avez vécu ça, vous le savez. Parce qu'on veut que ça fasse un sens, cet abandon-là. Si je dois subir ça, il doit y avoir une explication. Mais quand Jésus s'est écrié « Pourquoi? » Le ciel est demeuré silencieux. Parce que Jésus, sur cette croix, a été maudit. Et si je veux comprendre le sens de ce cri-là qu'il lance, je dois aller dans d'autres passages et commencer à voir comment les chrétiens ont compris ce qui était en train de se faire là. Et je vais vous lire deux passages ce matin pour venir saisir ce qui était en train de se passer dans cette heure qui était à la fois maudite et bénie. C'était une heure bénie pour ce qu'elle a accompli en notre faveur. C'était une heure maudite parce que le juste a été maudit. On lit dans Galates, une des épîtres écrites par Paul. On lit dans Galates au chapitre 3, versets 13 et 14. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous puissions recevoir par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez-vous, sur cette croix, celui qui était juste, celui qui était droit, a été fait malédiction. Et pendant un instant, pendant un moment, je crois que tout s'est passé là à la croix, parce que Christ termine en disant, tout est accompli. Christ termine en disant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je crois que tout s'est accompli là, à ce moment-là, sur la croix. Mais à ce moment-là, Christ, le juste, vous lirez les évangiles, cet homme droit a été fait malédiction. Il a reçu une malédiction, afin qu'une malédiction qui repose sur tous les hommes puisse être levée. On appelle ça dans notre jargon une substitution. Christ s'est substitué à moi. Il est venu prendre ma place. Il a fait office de substitut pour la malédiction qui repose sur moi. Et cette malédiction-là est juste parce que nous sommes tous pécheurs. Ça m'arrive encore des fois de jaser avec des gens, puis avec un orgueil incroyable, on me dit « Non, moi, je ne suis pas pécheur. » Tu veux pas que je connaisse ta vie, hein? On est tous pécheurs. Il n'y a pas personne ici qui n'est pas mesquin par moment, méchant par moment, hypocrite par moment. Nous le sommes tous par nature. Fondez une famille, vous allez l'apprendre assez vite. Ayez des enfants, vous allez le comprendre assez vite. Pas vrai que la société les corrompt. Ils sont corrompus du début. Même s'ils sont beaux. Hein, comme le petit Zacharie. Il est beau petit bébé. Mais très vite, ce qui est là sort naturellement. Et on l'est tous. Et Dieu nous dit dans sa parole que parce que nous sommes pécheurs, lui le saint, lui le juste, fait reposer sur nous une malédiction. Si vous avez des doutes sur cette malédiction, bien, lisez le journal cette semaine. Regardez comment ça va entre les hommes sur la terre. C'est vrai que Jésus avait un message subversif, aimez-vous les uns les autres. Vous lirez le journal cette semaine. Vous allez comprendre que les hommes sont maudits et que les hommes se maudissent les uns les autres, qu'ils s'entre-déchirent et s'entretuent. Un autre passage que je veux vous lire. 2 Corinthiens 5, 19 à 21, qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé là sur cette croix et ce qu'il y avait dans ce cri de Jésus. 2 Corinthiens 5, 19 à 21. « Car Dieu était en Christ, en Jésus-Christ, on s'entend? » Ça peut sonner autrement au Québec. « Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Écoutez bien ceci. Celui qui n'a pas connu, qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À ce moment précis sur la croix, ce Jésus qui avait une communion vraiment unique avec Dieu, et on le découvre en lisant les évangiles. Ce Jésus-là, c'est à ce moment-là, unique sur la croix, qu'il est maudit et qu'il est fait péché. Jésus-Christ n'a jamais péché. Vous ne trouverez pas ça. Vous ne trouverez pas que c'est un pécheur qui avait, en fin de compte, juste ce qu'il méritait. Mais à ce moment-là, il devient péché. Et Dieu le Saint, Dieu qui est droit, Dieu qui est pur, à ce moment-là, a un dédain absolu de son Fils. Parce qu'il voit sur son Fils la somme de tous les péchés de l'humanité. Il voit sur son Fils toutes vos mesquineries, toutes vos méchancetés. Parce que ce sacrifice-là est suffisant. Un seul sacrifice est suffisant afin que tous nos péchés soient pardonnés. Et voyez-vous, ça prenait un juste, ça prenait un droit, ça prenait quelqu'un qui marche avec Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, qui préfigurait ce sacrifice-là, l'agneau qui était immolé était un agneau pur, c'était un agneau sans tache. Ça prenait un juste qui venait là. Et le juste sur cette croix, à cet instant, à ce moment, a été fait péché, a été maudit par Dieu. Afin que la malédiction qui repose sur chacun des hommes puisse être soulevée à tout homme qui va placer sa foi en lui. Et Jésus-Christ a su, au moment même où il était sur la croix, qu'il avait accompli le sacrifice pour les péchés des hommes. Parce qu'avant de mourir, il va dire, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et il sait donc que le Père est prêt à l'accueillir. Il sait que le Père a accepté son sacrifice. À ce moment-là, sur la croix, Jésus va dire, « Tout est accompli. » Voyez-vous, Pâques, en somme, Pâques, c'est assez simple. Pâques, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité où un homme qui est juste et droit a été abandonné par Dieu afin que les pécheurs, vous et moi, qui nous le savons très bien, nous ne sommes pas justes et droits, n'ayons plus jamais à croire que nous sommes abandonnés de Dieu. Pâques, c'est ce moment où le Christ a été abandonné et maudit par Dieu afin que nous ayons accès dans la présence de Dieu. Et pour le chrétien, parce que nous plaçons notre foi dans son sacrifice à ce moment-là, parce que Dieu a agréé son sacrifice et l'a ressuscité d'entre les morts, nous savons, parce que nous avons placé notre foi en lui, que nous avons accès dans la présence de Dieu. Le sacrifice a été fait une fois, il a été parfait, et bien que je demeure, moi, Yannick Étier, chacun d'entre vous, des pécheurs jusqu'à la fin, je lutte pour marcher droit, vous savez. Ma femme me voit aller, puis elle dit, « Ah, t'essayes fort, mon grand, mais il y a des journées, t'es vraiment pas dedans. » Puis elle sait que j'essaye fort, mais elle sait que je suis pas toujours dedans. Mais que des pécheurs comme vous et moi ayons cette profonde assurance, cette profonde conviction que jamais je n'aurai à crier, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que je sais que j'ai été accueilli dans sa présence à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Et nous avons cette ferme assurance parce qu'à Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu a agréé son sacrifice parce que nous fêtons la résurrection de Jésus-Christ. Et je sais que pour certains d'entre vous, ces choses-là peuvent sembler très mystiques. C'est des histoires de grand-mère qu'on raconte aux enfants à côté de l'histoire du Père Noël. Mais vous savez quoi? Cette histoire-là est vie dans mon cœur à moi, dans ma vie à moi, depuis plus de 20 ans. Cette histoire-là a apporté une vie profonde, une espérance, une ferme assurance par rapport à l'éternité à des millions de personnes depuis 2000 ans. Et elle est venue bouleverser des vies. Elle est venue transformer des foyers. Elle est venue racheter des foyers parce qu'il y a des vies qui sont transformées. Elle est venue réconcilier des personnes ensemble parce que nous avons accepté son sacrifice. Ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que ce soit votre expérience à vous. Que vous quittiez ce matin, que vous alliez cette semaine avec cette ferme assurance que jamais vous serez abandonné par Dieu. Parce que Christ le juste l'a été à votre place. Amen. On va aller ensemble dans un mot de prière avant de célébrer sa résurrection, sa beauté, sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis pour la fête de Pâques, Seigneur. Je te remercie d'être entré dans ma vie, d'avoir éclairé, d'avoir illuminé les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que ce dont je doutais tellement, pendant tant d'années, Seigneur, j'ai douté de la véracité de ces choses. Je les trouvais belles, je les trouvais intéressantes, mais étaient-elles suffisantes pour que je fonde ma vie, que je fonde ma voix, toute ma vie et ma foi là-dessus, Seigneur? Et dans ta grâce, par un beau soir de 31 décembre, Seigneur, il y a une vingtaine d'années, j'ai été saisi par ton Esprit Saint, Seigneur. Je savais que tu m'appelais, je savais que tu m'attirais. Mais j'ai décidé ce soir-là de te donner mon cœur, Seigneur. Et j'ai décidé personnellement, j'ai pris la décision de placer ma foi dans ton sacrifice, Seigneur. Et depuis ce jour-là, Seigneur, je peux en témoigner devant tous les hommes de la terre. Ma famille peut en témoigner. Ma famille qui n'est pas chrétienne peut en témoigner. Cette foi-là est vie en moi, Seigneur. elle me transforme de jour en jour. Et tu fais de moi un homme meilleur, alors que je sais au fond de moi-même que je demeure un pécheur, Seigneur. Oh, je te bénis. Et je te prie, Père, afin que chacun dans cette salle puisse être éclairé et que son cœur soit éclairé, Seigneur, et qu'il prenne une décision, qu'il se repente et place sa foi en toi aujourd'hui. Que cette Pâque soit un jour nouveau pour chacun ici. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen.